Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Bertie Bourdon, mais aussi Marco Loridon et Rosalie Sucre, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Marie-Claire Oumabadi. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Simon.
Bonjour.
Lundi dernier, Marc, 13 soldats français ont perdu la vie dans une collision entre deux hélicoptères lors d'une opération au nord-est du Mali. Ce drame, le plus meurtrier depuis le début du déploiement des troupes françaises dans le pays, relance une fois de plus le débat sur l'engagement militaire au Sahel. Et tandis qu'en France, certaines voix demandent le désengagement des troupes, la présence des soldats français est également contestée dans la région. Alors, quelles stratégies alternatives sont envisagées? Comment la France et ses alliés peuvent-ils aider les pays du Sahel à stabiliser la région sans s'enliser, sans pallier indéfiniment les carences des États? À terme, un retrait des troupes françaises est-elle envisageable, voire souhaitable? Et que peut-on attendre d'une éventuelle solution politique? Qui est prêt à l'envisager? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Michel Goya. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien colonel, essayiste, un spécialiste de l'histoire militaire et de l'analyse des conflits, et puis auteur d'un blog, La Voix de l'Épée. À nos côtés, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes vous directeur de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, et vous préparez un ouvrage qui est en plein dans notre sujet, si je puis dire, puisqu'il s'intitulera, ça sera au mois de janvier, Une guerre perdue, la France au Sahel. Avant d'évoquer toutes ces questions, place à notre retour d'eux, en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient du Brésil, c'est Bruno Meyerfeld, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Monde, correspondant à Rio depuis peu, hein,
c'est trois mois.
Depuis trois mois. Et pourtant, en trois mois, vous avez écrit de très nombreux articles. Je les ai lus hier, évidemment, pour préparer cette émission. On va profiter de votre passage à Paris pour revenir précisément sur cette actualité particulièrement dense. Et peut-être avec en particulier ce retour sur la scène politique de Lula, l'ancien président. Vous aviez eu l'occasion, Bruno Meyerfeld, de le rencontrer lorsqu'il était encore dans sa prison de Curitiba. Dès sa libération, il s'est posé en chef de file de l'opposition à Jair Bolsonaro. Vous croyez au retour de Lula? Le retour politique de Lula, il est possible? Par exemple, à nouveau président, c'est envisageable?
Alors, pour l'instant, Lula reste inéligible puisqu'il est sorti de prison après une décision du Tribunal suprême fédéral qui a statué qu'on pouvait être emprisonné tant que tous les recours n'avaient pas été explorés par la justice. Donc, Lula est aujourd'hui inéligible et il est condamné en seconde instance, pas du tout innocenté. Alors, sur la question du retour politique de Lula, en fait, Lula n'est jamais parti du pouvoir. C'est une personne qui était candidat quatre fois à la présidentielle avant de l'emporter et qui, directement ou indirectement, était sur les affiches de campagne du Parti des Travailleurs pendant les trois ou quatre élections suivantes. Donc Lula était candidat huit fois à la présidentielle. Il n'est jamais sorti de la scène politique. Et c'est une personne qui est dans la politique brésilienne au plus haut niveau depuis les années 70, c'est-à-dire une cinquantaine d'années. Pour un pays qui est indépendant depuis 200 ans à peine, c'est immense. Donc, et Lula fait partie de la politique brésilienne, il en fera partie jusqu'à sa mort, donc il est complètement à l'intérieur, il n'est jamais parti en fait.
Et puis rappelons aussi peut-être que lors de la précédente campagne, avant d'être mis en prison, dans les sondages, il était donné gagnant face à Jair Bolsonaro.
Largement.
Largement. Vous dites que Lula, c'est plus le même homme, qu'il a changé, qu'il n'est plus ce président sourire, généreux et parfois tendrement naïf, je reprends vos mots. Ouais. En quoi a-t-il changé?
Alors moi, j'ai rencontré en prison et je m'attendais à trouver l'homme que j'avais vu dans... j'avais jamais rencontré, que j'avais vu dans les médias depuis le début des années 2000, depuis sa présidence, c'est-à-dire quelqu'un d'accessible, de transparent, de drôle, etc. Et j'ai vu une personne en colère, j'ai vu une personne qui se sentait humilié. Et j'ai pas vu tellement de sourires, j'ai vu beaucoup de rancœur chez cette personne.
Tout l'inverse de ce qu'il a dit quand il est sorti de prison.
Oui.
Alors, je ne suis pas en colère,
je n'ai pas de rancœur. Moi, j'y crois qu'à moitié. J'y crois qu'à moitié à ça. Mais moi, j'ai vu une personne, oui, qui avait changé, lui dit qu'il a mûri. Lui dit qu'il n'est plus Lulinha. C'est comme ça qu'on le surnommait dans les années 2000. On l'appelait Petit Lula. justement à cause de ce côté un peu naïf, lui dit qu'il a mûri, qu'il s'est épaissi. Moi, je pense qu'il se méfie, c'est une personne méfiante aujourd'hui, qui a eu l'impression d'avoir le système entier contre lui et contre son parti depuis 5 ans. Et je crois que
ce qui semble pas complètement faux, hein, quand on regarde un certain nombre de révélations, notamment sur les échanges de mails entre Sergio Moro, qui était le petit juge de province, comme on l'appelait lui, et on voit qu'effectivement, on a clairement utilisé la justice à des fins politiques, c'est maintenant très clair.
On peut légitimement se poser des questions sur la manière dont le procès et la condamnation ont été faites, hein, sans aucun doute, après les révélations de The Intercept. Donc, dans une certaine mesure, il peut légitimement se sentir victime d'une injustice. Après, la question, c'est, dans ce retour politique, comme vous l'avez dit, de Lula dans l'arène, quel type de président il serait aujourd'hui par rapport au président qu'il était de 2002 jusqu'à la fin de son mandat, 8 ans plus tard.
Et bien justement, est-ce que son programme, son projet pour le Brésil est différent de celui qu'il avait au début des années 2000?
C'est ça qui est intéressant avec Lula aujourd'hui, c'est que quand vous lui demandez, moi je lui ai demandé, je lui ai dit, vous êtes le leader de l'opposition, je vais vous poser des questions politiques, que feriez-vous pour sauver l'Amazonie? Et il répond, voilà ce que j'ai fait pendant mon premier et mon deuxième mandat, qui était effectivement un grand progrès à l'époque, mais le Brésil a changé depuis, et rappelons que Lula a hérité d'un pays aux finances extrêmement assainies, après l'ère Cardoso. Et que le pays qu'il va trouver aujourd'hui n'est plus le même. C'est un pays traumatisé, c'est un pays qui subit une crise morale profonde. Et les réponses, forcément, ne sont pas les mêmes qu'au début ne peuvent pas être les mêmes qu'au début des années 2000. Et j'ai vu
distribuer les aides sociales comme il l'avait fait dans les années 2000, c'est plus possible. L'économie est aujourd'hui.
Il n'y a plus rien à redistribuer au Brésil. C'est un pays où la dette a explosé. C'est un pays qui est en crise économique, la pire récession depuis des dizaines d'années, et ça depuis 5 ans. Donc aujourd'hui, Lula n'a pas vraiment de programme pour le pays, mais il incarne quelque chose. Et ça, c'est très fort. Quand vous allez dans les meetings de Lula, vous parlez à des gens, et ils vous disent, je leur ai demandé, il vous dit qu'il va distribuer de l'argent, des salaires, comme vous pouvez croire un truc pareil. Il vous dit, mais il l'a fait. Il l'a fait. Oui, il nous a sorti de la pauvreté quand il était au pouvoir. Et cette légitimité-là, il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques sur la planète qui peuvent l'avoir, au niveau aussi personnel en plus.
Qu'est-ce qu'il vous dit sur la question de l'insécurité? Parce qu'on le sait, évidemment, si Jair Bolsonaro est arrivé au pouvoir, c'est aussi parce qu'il y a un niveau d'insécurité qui est terrible au Brésil. Et donc, il y avait ce besoin d'un homme fort et, d'une certaine manière, cette nostalgie de la dictature, elle est aussi le fruit de cela. Pendant un moment, en tout cas, on a plutôt salué la politique sécuritaire du PT. Il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. On a développé un peu les transports, les services de l'État. Je pense, par exemple, du côté de Rio, avec ce téléphérique dans la favela du complexe de l'Allemand, où, effectivement, à l'époque, ça avait changé les choses. Et même cette stratégie qui consistait à mettre des postes de police à l'intérieur même des favelas, on avait dit à l'époque, bon, ça a eu ses effets. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est dramatique du point de vue sécuritaire. Que dit-il sur son bilan sécuritaire?
Alors, sur son bilan, il dit en général que des choses positives. Je ferai pareil à sa place. Mais sur le bilan sécuritaire de Lula et sur son projet, lui, il le dit. En gros, quand une personne aura de quoi manger et de quoi s'acheter un téléphone portable et un ordinateur, hein, littéralement, c'est ce qu'il a dit dans son meeting,
il n'y aura plus de violence.
Voilà, donc c'est aussi simple que ça, il parie sur la croissance économique. Après, le problème de l'insécurité, comme le problème de la déforestation, comme le problème des services publics, sous Lula, se sont améliorés, ils n'ont pas été résolus. Il n'a pas fondamentalement remis en cause, réformé en profondeur la manière dont le système de sécurité marche au Brésil, qui est extrêmement complexe, parce qu'on n'est pas du tout comme en France, mais dans un État fédéral, où la sécurité est largement de la responsabilité des États brésiliens. Et ça, il ne l'a jamais réformé en profondeur, et il n'a pas fait de discours. Mais pour l'instant, il est plus dans un moment de remobilisation de l'électorat et de redonner un peu d'espoir à la gauche. Il n'est pas du tout dans un moment d'écriture de projet, quoi. Le sera-t-il, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est pas du tout ça. Pour l'instant, c'est donner à espérer, quoi.
Comment Bolsonaro a réagi au retour de Lula?
Alors, ça a été assez intriguant parce que au début, il n'a pas réagi. Il n'a même pas cité Lula. Il l'a cité comme ça. Il a pas cité son nom, mais il a fait des remarques à droite, à gauche, mais qui n'étaient pas extrêmement offensives. Je pense, ça c'est mon avis personnel, que c'est plutôt une opportunité pour Bolsonaro, la libération de Lula. Parce que Déjà, Lula est une figure qui ne fait plus l'unanimité au Brésil. Il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps. L'image Lula a 53... c'est un sondage qui a été fait par un institut qui s'appelle Atlas. Il a 53% d'opinions négatives, Lula, contre 40% de positives. Une majorité de Brésiliens a une image négative de Lula. Légitimement ou non, c'est pas un problème. Bolsonaro, de son côté, a une opinion positive de la part de 42% des Brésiliens, donc 2 points de plus que Lula, et 51% négatif, donc 2 points de moins que Lula. Bolsonaro est plus populaire que Lula aujourd'hui, selon le dernier sondage de l'Institut Atlas. Donc je pense que la sortie de Lula contribue à polariser un peu plus le Brésil. Bolsonaro se nourrit de cette polarisation. Par ailleurs, la situation est assez idéale, parce qu'on a un Lula qui n'est plus persécuté politique, ne peut plus se présenté aussi, totalement comme tel, on va dire, et qui en même temps est inéligible. Donc on a un Lula qui n'est plus un symbole politique d'oppression, mais qui en même temps est inoffensif sur le plan politique. Ouais. Donc c'est presque une situation idéale pour Bolsonaro. Dans le cas de Lula, il y a d'autres problèmes au Brésil, etc. Mais c'est pas mal. Et puis ça permet de... Il y a pas mal d'électeurs de droite modérée qui s'étaient détachés de Bolsonaro depuis son élection, à cause de tous les scandales, et qui aujourd'hui voit le PT revenir, Lula reparaître en public, et qui se dit « Ah non, mieux Bolsonaro que Lula ».
Mais alors justement, cet antipétisme, jusqu'où peut-il aller? Parce que à la libération de Lula, il y a eu un certain nombre de manifestations, vous le rapportez dans un de vos papiers, soit 70 dans l'ensemble du pays, vous en avez rencontré quelques-uns de ces manifestants, il y a par exemple Paulo Almeida qui vous dit à propos du tribunal fédéral qui a ordonné la libération de Lula, c'est une bande de bandits, de salauds, de voleurs gauchistes, voilà ce qu'il vous dit. Et ce qu'il vous dit en plus, c'est que il aimerait sincèrement, dit-il, que Bolsonaro d'abord ferme ce tribunal, mais surtout qu'il proclame l'AI-5. L'AI-5, c'est l'acte institutionnel par lequel, en 1968, la junte militaire avait suspendu le Congrès et puis on avait ensuite écrasé les libertés, on avait lancé des actes de torture à l'envi. Est-ce que on est en réalité dans une situation où le retour d'un régime très dur, oserais-je dire, dictatorial, est possible? Est-ce que finalement, la sortie de Lula peut aussi produire quelque chose de cette nature?
C'est compliqué. C'est une bonne question, c'est compliqué. La question, c'est est-ce que les militaires auraient envie de revenir au pouvoir au Brésil? Parce que vous parlez de dictature militaire. Bolsonaro, il faut savoir quelque chose sur lui, c'est que dans l'armée, il comptait peanuts avant son élection, ou même l'an dernier. C'est un capitaine de réserve exclu de l'armée, qui a toujours été méprisé, et qui, connaître un tout petit peu l'armée brésilienne, jamais, d'aucune manière, un général 4 étoiles obéit à un capitaine dans l'armée. Et dans son gouvernement, il y a des généraux. Et ce que les journalistes disent, c'est qu'il y a ce rapport de force entre eux. Le problème, c'est que le Brésil doit assumer aujourd'hui des réformes très compliquées sur le plan économique et assez brutales, notamment la réforme des retraites qui est passée il y a quelques semaines, etc. Et de toutes les manières, peu importe le régime, il va falloir l'assumer. Je ne suis pas sûr que les militaires aient envie d'assumer cette responsabilité. Et ma théorie, enfin mon analyse qui n'engage que moi, c'est que ça les arrange bien d'avoir un Bolsonaro un peu bouffon à la tête du pouvoir pour assumer ses réformes plutôt qu'un général. Quelqu'un qui est clairement identifié comme un
top. On laisse Bolsonaro en première ligne.
Certains diront que c'est l'idiot utile, mais peut-être pas tout à fait faux. Après, ces déclarations sont pas sans péril pour l'économie brésilienne, notamment quand il met en cause la Chine ou le marché du Mercosur. Et il n'est pas impossible de penser que s'il pousse le bouchon trop loin et que ça a des conséquences importantes sur certaines rentes au Brésil, on puisse l'éjecter comme c'était le cas pour Dilma Rousseff, par exemple.
L'idiot utile, Bruno Meyerfeld, mais en même temps, l'idiot qui arrive à faire certaines choses. Vous parliez à l'instant de la réforme des retraites, c'est vrai que nous, ça nous occupe au premier plan en ce moment. On sait, il y a évidemment jeudi prochain un rassemblement a priori important sur cette question-là. Il se trouve que le président brésilien est parvenu, lui précisément, à faire passer une réforme des retraites qui en réalité était dans les tuyaux depuis très longtemps, déjà même à l'époque du PT.
Alors, c'est assez intéressant cette réforme des retraites parce que c'est assez systématique de la manière dont Bolsonaro gouverne. En fait, il le dit lui-même, il n'a aucune compétence économique. Il ne faut pas croire qu'il a écrit la réforme des retraites. C'est son ministre de l'économie extrêmement puissant, Paulo Guedes, qu'il a élaboré. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il a jeté cette réforme au Congrès. Il a dit débrouillez-vous, votez-la un peu comme vous voulez. Et finalement, la réforme qui est arrivée, qui a été votée, elle a à voir avec le projet initial, mais elle a été énormément réélaborée. Et c'est plus le projet du Congrès et du ministre de l'économie que de Bolsonaro. Par ailleurs, il fait beaucoup
après
de choses.
Après tout, c'est leur rôle, chacun dans son rôle, d'une certaine manière.
Je suis d'accord. Mais du coup, on parlait d'un président autoritaire, etc. Il n'a aucune compétence, ne serait-ce que pour négocier avec le Congrès, ou même pour élaborer ce type de projet de loi. Par ailleurs, c'est un président, à part cette réforme des retraites et des réformes économiques, c'est un président qui défait plus qu'il ne fait. Il a donné un discours quand il est allé aux États-Unis il y a pour rencontrer Trump, je crois, au début de l'année, où il a dit « Mon but, c'est de détruire, c'est de défaire. » C'est pas de faire. J'ai 4 ans pour défaire. Si dans 4 ans, j'ai bien défait tout ce qui a été fait par Lula, je commencerai à faire des choses. Et on se rend compte que plus que des lois coercitives ou de qui mettraient la société sous une chape de plomb, c'est un président qui libère en quelque sorte. Il libère l'exploitation de l'Amazonie, il libère le port d'armes à feu, il libère la parole, ce qui est peut-être ce qu'il y a de pire aujourd'hui dans la société brésilienne, puisque il n'y a plus aucun contrôle de ce qui est dit. Et dans un sens, il défait plus qu'il ne fait. C'est assez, assez intriguant comme pouvoir. Voilà.
Et en même temps, vous dites, sur par exemple la question de la réforme des retraites, vous dites dans votre papier que Paulo Guedes, donc le ministre, alors Chicago Boy, ultra-libéral, il s'est plutôt montré assez mauvais négociateur et que d'une certaine manière, peut-être aujourd'hui précisément, le fait qu'il n'ait pas été aussi bon, qu'il n'ait pas réussi justement à faire passer la réforme telle qu'il l'aurait souhaité, peut-être que ça affaiblit aussi précisément le camp des libéraux et que la suite du mandat de Bolsonaro pourrait être un peu plus étatiste. C'est ce qu'attend le camp militaire, par exemple.
Il y a des grands, voilà, exactement. Tout à fait. Il y a des grandes luttes. Une des principales lignes une principale fracture au sein du pouvoir bolsonariste, c'est entre, on va dire, les économistes étatistes plutôt militaires, qui en fait voudraient une politique économique plus proche de celle qu'ont pu mettre en place les militaires dans les années 70, c'est-à-dire protéger l'économie, pas de privatisation, etc. Le truc, c'est que je pense que tout le monde... Il n'y a pas beaucoup d'imagination sur les solutions à suivre au Brésil en ce moment. Et les seuls qui ont une ligne assez claire sur ce qu'il faut faire en économie, c'est les ultralibéraux. Et le pouvoir va entamer l'an prochain des privatisations massives de plein d'entreprises étatiques, notamment... l'organisme qui est chargé d'imprimer les billets de banque, par exemple, ou la principale entreprise d'électricité publique, ou la poste brésilienne. Donc, je pense que le fait d'avoir réussi à faire voter une réforme des retraites, chose que le PT n'était pas arrivé à faire pendant 15 ans de pouvoir, au contraire, donne de la force à Paulo Guedes, même si c'est pas la réforme idéale qu'il aurait souhaité. Ça fixe déjà un point, notamment pour les investisseurs étrangers qui attendaient cette réforme revenue au Brésil.
Vous disiez tout à l'heure, Bruno Meyerfeld, que Lula était d'une certaine manière assez inoffensif pour Bolsonaro. Est-ce que, finalement, le pire ennemi de Bolsonaro, c'est pas lui-même? Je m'explique, il y a aujourd'hui beaucoup d'interrogations sur la question de savoir s'il finira ou non son mandat. Et notamment parce que, visiblement, il commence à être un petit peu inquiété dans l'affaire Marielle Franco, qui est une affaire extrêmement importante au Brésil. Marielle Franco, c'était une conseillère de Rio, conseillère municipale à Rio, qui était par ailleurs une militante de la cause noire, militante LGBT. Elle avait été assassinée en pleine rue en 2018. En plein centre de Rio. Et la personne qui est soupçonnée de cet assassinat, ce qui semble apparaître, c'est qu'elle serait passée, j'utilise le conditionnel, serait passée dans la résidence de Bolsonaro quelques heures précisément avant le meurtre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça a mis foudrage Bolsonaro contre TV Globo, qui a révélé justement cette histoire-là. Est-ce qu'on est dans une situation où en réalité Bolsonaro pourrait ne pas aller au terme de son mandat? Ce qui pose aussi la question de l'indépendance de la justice.
Oui, alors voilà. En fait, vous posez la question de comment marche le Brésil, donc ça pourrait être une longue réponse. Mais en gros, on s'est rendu compte, je trouve, pendant l'impeachment de Dilma Rousseff, la destitution de Dilma Rousseff, que beaucoup appellent coup d'État, qu'il était relativement facile de destituer un président sans trop de raisons, puisqu'elle a été destituée pour une... techniquement pour un crime constitutionnel, mais en fait...
Pour avoir maquillé des comptes.
Bref, je vais pas revenir là-dessus. Je dis juste que ça serait facile de sacrifier Bolsonaro, mais que ce serait une décision politique forte et qu'il faudrait avoir quelqu'un à mettre à la place. Ça, c'est très important. Chaque fois que la moitié des présidents brésiliens...
Bah, c'est le vice-président. C'est Moral.
Mais le problème, c'est que c'est un général. 4 ou 5 étoiles, je ne sais plus, j'imagine 4. Mais c'est un général. Est-ce que les militaires veulent un général au pouvoir? Je pense, pour résumer, que tant qu'on n'a pas d'alternative à Bolsonaro au pouvoir, on le destitue pas. Et tant qu'il ne remet pas en cause quelque chose de fondamental dans le système brésilien ou dans les exportations du Brésil, s'il est à l'origine, j'en sais rien moi, d'une guerre avec le Venezuela ou que la Chine coupe les importations de soja, là il saute, je pense. Mais tant qu'il n'y a personne à mettre à la place, on va pas le destituer. Toutes les fois où un président a été destitué au Brésil, et c'est arrivé assez souvent, la moitié des présidents brésiliens, en gros, ont pas fini leur mandat. Hein. Dans l'histoire du Brésil, c'est quand même assez dingue. Donc c'est pas anormal. On avait une alternative à mettre à la place. On avait quelqu'un qu'on voulait mettre à la place, et c'était en général la majorité qui s'arrangeait avec le vice-président pour remplacer le président qui gênait. Donc là, assumer un militaire, un top de l'armée au pouvoir aujourd'hui au Brésil, c'est pas, je pense, mon avis. Hein, peut'être que je vais me tromper demain, il sera destitué, j'aurai l'air bête. Mais je pense
pas. Ou les choses ont changé.
Oui, ça peut changer très vite. Oui, je pense pas que ce soit très probable à court terme.
Il y a quand même un élément, et ce sera peut-être ma dernière question, c'est que on a derrière lui, évidemment, pour le moment, un parti qui fait bloc. Sauf que c'est un parti qui, lui aussi, est confronté à des affaires. Vous l'évoquez dans l'un de vos papiers, hein, les fameux affaires des oranges. C'est comme ça qu'on appelle ça, les détournements.
Des candidatures fictives.
Voilà. Et que du coup, on pourrait avoir un parti qui se fracture, qui se divise et qui n'est plus aussi
alors c'est déjà
enclin
fait
à soutenir Bolsonaro.
C'est déjà fait parce que en fait la moitié du parti au Parlement, des parlementaires soutiennent Bolsonaro, l'autre non, soutiennent le leader historique de la formation. Bolsonaro a annoncé qu'il quittait son parti, je crois la semaine dernière ou il y a deux semaines. Il a lancé un nouveau parti dont le numéro électoral, pour l'anecdote, est le 38 à cause du calibre de revolver. Voilà. Donc il est déjà en train de faire son nouveau parti, mais c'est extrêmement compliqué d'enregistrer un parti au Brésil et il n'est pas dit qu'il y arrive facilement.
Bon, Bruno Meyerfeld, j'avais prévu de parler avec vous de la marée noire, du front indigène qui est divisé, de l'église également qui est fracturée, de ce président nouille qui est l'un des titres de vos articles. Mais bon, on n'aura pas le temps, Bruno Meyerfeld, donc j'invite les auditeurs à aller sur le site du Monde pour lire vos papiers. Et puis bon retour au Brésil.
Je pars à 23h.
Eh bien, bon vol, merci infiniment d'être passé.
Ela é minha namorada e gata veste marrom e preto como se fossem uma cor só. Quando os vigias do rio todos já dormem, a gata espia sozinha a noite a passar. De ser nervosa na madrugada, quando não chove, das suas voltas por aí, deixando claro para todos que seguem.
Allez, on quitte le Brésil, on prend la direction du Sahel, opération meurtrière au Sahel, de l'émotion à la remise en question. C'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
France Culture, Culture Monde. Florian Delorme.
En début de semaine, 13 militaires français ont trouvé la mort dans la collision de deux hélicoptères. C'est la perte la plus lourde pour l'armée française depuis le déploiement de l'opération Serval, lancée en 2013 au Mali, remplacée un an plus tard par l'opération Barkhane. Après le temps de l'hommage, des recueillements, vient celui du questionnement sur les limites de l'intervention française au Sahel.
La mission qui est la nôtre là-bas est importante. Néanmoins, le contexte que nous sommes en train de vivre au Sahel le conduit aujourd'hui à regarder toutes les options stratégiques. J'ai tenu hier une première réunion et les prochaines semaines seront consacrées à un travail en profondeur que j'ai demandé au gouvernement et à nos armées pour regarder les modalités de notre intervention. Et je lui dis, toutes les options sont aujourd'hui ouvertes. Dans ce contexte-là, et en fonction des décisions que la France aura à prendre, une plus grande implication des alliés est évidemment quelque chose qui serait tout à fait bénéfique.
Toutes les options sont envisageables, disait Emmanuel Macron hier. Nous allons parler justement de ces options, regarder un peu l'état de la situation, les alternatives possibles, comment repenser cette présence française dans la région. Est-ce qu'il faut se retirer? Comment est-ce qu'on peut croire à une solution politique? Michel Goya, Marc-Antoine Pérouse de Monclos sont nos invités. Merci encore d'être avec nous ce matin. Marc Semo, notre partenaire du Monde, comme chaque vendredi. Marc, ça fait des années maintenant que l'on évoque très régulièrement cette question de l'engagement français au Sahel. Là, c'est vrai qu'on a une perte extrêmement lourde. Il y a eu évidemment plusieurs pertes déjà depuis de nombreuses années. Mais là, 13, c'est la plus lourde. Et c'est vrai qu'il semble que là, on soit dans une situation de remise en cause assez inédite, justement, de cette présence française au Sahel. On en a parlé il n'y a pas longtemps, mais on s'est dit qu'en fait, c'était indispensable d'en reparler aujourd'hui, Marc.
Et notamment sous cet angle de l'engagement, parce que le pire, c'est-à-dire l'effondrement du Mali et sa transformation en territoire djihadiste, avait été évité en janvier 2013 par l'opération Serval. Et François Hollande, qui était venu à Tombouctou quelques jours après, face à la marée de drapeaux tricolores brandis par une population qui se sentait libérée, a lancé « C'est le plus beau jour de ma vie politique ». Alors, c'est vrai, les djihadistes n'ont pas pris le pouvoir à Bamako, mais entre-temps, ils ont essaimé dans toute la région. 7 ans après, avec Serval, devenu Barkhane, 4500 militaires, pour l'essentiel français, ils semblent engagés dans une guerre sans fin, dans un territoire grand comme l'Union européenne. Alors, fallait-il en 2013 partir, une fois l'opération accomplie ? C'était une des questions, peut-être. Le dilemme, en tout cas, est celui de toutes ces guerres asymétriques. Partir est impossible sans créer le chaos. Rester, c'est risquer de s'enliser dans un conflit ingagnable. Alors, les armées locales sont impuissantes. Les États, à commencer par le Mali, sont incompétents, corrompus, perçus comme oppresseurs par une grande partie de leur population. Et les djihadistes gagnent un pouvoir d'influence toujours plus large sur les populations civiles. Alors, c'est ce que rappelle justement Michel Goya, qui est ici avec nous au plateau, dans une tribune qui sera publiée demain dans Le Monde. Il rappelle que l'enjeu central reste la reconstruction des États, avec des changements profonds de gouvernance, parce que selon ses propres mots, ce sont les nations et les États qui gagnent les guerres, pas les armées.
Bon, bah Michel Goya va pouvoir évidemment nous détailler un peu sa position, mais on va peut-être commencer avec la question, une question extrêmement difficile, mais qu'on va avoir le temps de préciser. Est-ce que maintenant qu'on y est, il faut se retirer ? Michel Goya.
Ben, je pense que, d'abord, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que des soldats tombent dans une guerre que le contexte de la guerre change lui-même. Conditionner notre politique à nos pertes, c'est se rendre dépendant, se rendre vulnérable aux pertes, ce qui fait le jeu de nos adversaires. Il suffit, on l'a déjà vu en Afghanistan d'ailleurs, hein, il suffit de que nos adversaires réussissent à tuer plusieurs soldats français, et d'un seul coup, il y a un questionnement, il y a une et au bout de quelques coups de ce genre, on aboutit à un repli. Et je rappelle encore une fois les derniers événements en Afghanistan en 2011-2012, par exemple.
C'est la pression de l'opinion.
Oui, c'est la pression de l'opinion, mais...
Elle ne supporte plus les pertes humaines.
Elle ne supporte plus les pertes qui paraissent inutiles. En fait, c'est ça la difficulté. L'opération Serval, vous avez eu des pertes aussi. Hein. Vous avez eu des soldats qui sont tombés. Personne n'a remis en question à chaque fois l'opération Serval parce qu'un soldat a été tué. Parce qu'on était dans un autre contexte opérationnel, je dirais, déjà plus clair, plus visible. Lorsque un soldat tombe en libérant Gao, ben, vous voyez le résultat de cette opération. Donc là, il y a moins de doutes. Et puis avec Barkhane, on a basculé dans une autre forme d'opération, beaucoup plus diffuse, beaucoup plus complexe. Et là, évidemment, quand des soldats tombent, ben, on ne sait pas très bien, en réalité, pourquoi ils sont tombés.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, je sais bien que vous, votre opinion, c'est qu'il n'aurait pas fallu y aller. Maintenant qu'on y est, est-ce qu'il faut se retirer ?
Alors, je le pense. De toute façon, vous avez trois options. Et à titre personnel, je regrette que ce débat soit lié à l'accident de l'hélicoptère, parce qu'il faut s'interroger depuis longtemps hein, sur le sens de notre engagement militaire. Ça va faire 7 ans. Donc, vous avez trois options. Soit vous continuez tel que c'est. Et puis, au bout de 7 ans, on voit que ça n'aboutit pas. On est plutôt sur un constat d'échec. Hein. Vous l'avez souligné, dispersion des mouvements djihadistes qui vont aller s'enraciner dans d'autres territoires. Le pays, le Mali, continue d'être divisé en deux. Donc, cette option-là ne me semble pas envisageable. Il y a une autre option qui est le surge. Hein. Alors, à ce moment-là, on renvoie plus de gens. Ça n'a pas marché avec 4500 hommes et 13 000 casques bleus, hein, plus les forces du G5 Sahel. Donc, il y a quand même une forte réponse militaire. On vous dit, on va en mettre plus. Mais à mon avis, c'est le logiciel qui doit être révisé. Parce que, comme vous le disiez, le vrai problème, et c'est là qu'est la mission impossible de l'armée française, c'est la défaillance de l'État malien. C'est-à-dire qu'on sait, le GPS était mal réglé en 2013. Parce que finalement, le vrai fond du problème, il était à Bamako, pas à Tombouctou. Et le djihadisme n'est jamais que le symptôme d'un État qui fonctionne extrêmement mal, qui provoque un sentiment d'injustice, notamment dans les campagnes, face à des policiers, des gardes forestiers qui ont racketté les Peuls pendant des années, Peuls qui maintenant vont rejoindre les groupes djihadistes. Donc on s'est un peu trompé de logiciel. Alors effectivement, le retrait, ça veut dire quoi ? À mon avis, la question, c'est plutôt quand on doit partir. Parce que je ne suis pas complètement certain que les Nations Unies aient envie aussi de s'en sablés avec nous au Sahel. Alors il y a quelques annonces, les Lituaniens vont envoyer quelques hommes dans des forces spéciales européennes, mais enfin, on va pas se leurrer, le G5, la force du G5 Sahel ne fonctionne pas. Je crois qu'il faut un électrochoc pour que les Africains se ressaisissent. Et c'était un peu ce que je disais en matière de conclusion positive dans mon dernier livre là sur l'Afrique, nouvelle frontière du djihad, en disant que, mais vous savez, cette menace djihadiste, elle provoque aussi des sursauts nationaux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un rassemblement autour d'une certaine idée de l'État qui devra être révisée. Il y a un contrat social à revoir depuis les indépendances. Mais fondamentalement, c'est aux Africains de se prendre en main. On ne peut pas demander à l'armée française de se substituer à une armée malienne défaillante qui commet des massacres de civils, des exactions, qui évidemment pousse les gens du coup à rejoindre les rebelles pour se protéger contre ces exactions. On ne peut pas demander ça. On ne peut pas demander à l'armée française de substituer à la justice, à la police, au service des eaux. Enfin, c'est invraisemblable. Là, il y a un vrai problème de réflexion générale et stratégique sur cet engagement militaire, où on demande l'impossible à l'armée, en fait.
Je me permets, puisque vous disiez, je trouve dommage que l'on aborde ça que quand il y a ce type de drame. Je rappelle juste que ici à Culture Monde, nous l'avons évoqué il y a quelques semaines et pas après un accident. Nous l'avions évoqué au mois de juin dernier, je crois, si ma mémoire est bonne, avec vous. Oui. Et c'était pas du tout à l'occasion d'un drame. Donc on l'évoque régulièrement, mais ça c'était pour ma défense personnelle.
Je me permets juste une chose, c'est-à-dire pour la première fois, on voit c'est la première fois moi que je vois ça, des sondages, on voit une légère majorité de Français qui sont favorables à un retrait. Moi, je les avais pas vus avant. C'est avec l'hélicoptère que ça apparaît.
Alors justement, Michel Goya, qu'est-ce qui s'est passé avec ces hélicoptères? Peut-être qu'il faut avoir un point de précision, parce que hier, l'État islamique a expliqué que cette collision avait été provoquée par ses combattants. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des causes, des circonstances de cet accident, de cette opération meurtrière tragique au Sahel?
Alors bon, techniquement, une enquête est en cours, hein, on aura des éléments assez rapidement. Ce qui est certain, c'est que effectivement, il y a eu un accident assez rapide. Il faut bien comprendre le contexte, hein. On est avec des hélicoptères. Les hélicoptères sont indispensables dans cette opération. Des hélicoptères qui volent à 200 km/h à très basse altitude, par une nuit extrêmement noire, qui sont près les uns des autres. Et puis là, effectivement, il a suffi, je ne sais pas, d'une défaillance technique, d'une erreur, pour que qui se rencontrent, se percutent.
Ah, mais l'État islamique ne parle pas de défaillance technique. L'État islamique dit, c'est nous.
Il est évident. Alors, si vous voulez, d'une certaine façon, il faut quand même le rappeler, nos soldats sont morts au combat. Ils sont morts au cours d'un combat contre l'État islamique dans le Grand Sahara. Et il est évidemment beaucoup plus gratifiant pour eux de revendiquer eux-mêmes, enfin d'avoir tué ces soldats dans le cadre d'un combat, oui, bien sûr. C'est logique, c'était attendu d'ailleurs. Hein,
Marc-Antoine Perros de Monclos, vous allez nous expliquer qui est ce groupe et quelles sont ses revendications dans un instant, mais Marc Semo, vous aviez justement une question,
je vous en prie.
Aidez-nous à comprendre justement qui sont ces combattants contre lesquels...
Si on commençait la liste de tous les groupes djihadistes de la région, il faudrait augmenter la durée de cette émission. Hein. Donc là, l'État islamique au Grand Sahara, qui est mené par un certain Sahraoui, qui était quelqu'un qui en fait faisait partie d'un groupe qu'on appelait Ansardine, qui avait pris le pouvoir notamment à Gao, en 2012. Il faut rappeler que si les groupes djihadistes, à l'époque, parce qu'on pointe toujours au même problème, ont réussi à prendre le pouvoir, c'est qu'il y avait eu un putsch à Bamako, avec des mutins de l'armée malienne, et que l'armée malienne s'était complètement retirée du nord. Il faut rappeler ça, parce qu'il y a toujours une espèce de légende en disant c'est la chute de Kadhafi en Libye qui fait que les Touaregs sont revenus et que du coup, etc., etc. Non, en réalité, les racines de ce problème étaient bien locales. Il y avait des rébellions Touaregs depuis très longtemps qui ont alimenté aussi le discours des djihadistes avec un ennemi commun qui était le pouvoir central à Bamako. Et donc ce groupe est en fait une queue de comète, ils sont pas très nombreux, peut-être 300, disent certains sécuritaires, une queue de comète d'un groupe plus important qui était Ansardine, qui lui était monté par l'ennemi public numéro un de la France dans la région, hein, Yad Agali, qui est toujours effectivement actif, qui est un Touareg, qui lui a plusieurs vies, comme un chat, vous voyez, qui a d'abord combattu pour des causes entre guillemets laïques, nationalistes, Touareg, y compris pour Kadhafi au Liban, et puis qui ensuite s'est saisi de la question de l'islam, et là on voit bien qu'il y a plutôt une islamisation de la radicalité plutôt que l'inverse, qui s'est saisi de la question de l'islam pour effectivement défendre sa cause parce qu'il n'était pas tellement bien vu dans les mouvements nationalistes Touareg, et qui aujourd'hui est devenu le leader du groupe de soutien aux musulmans qui est l'espèce de, on l'appelle le G5 aussi, vous savez, vous avez le G5 Sahel qui sont les cinq états de la région qui font partie de cette coalition antiterroriste. Et puis, vous avez un groupe qu'on appelle le groupe de soutien aux musulmans, c'est comme ça qu'il s'appelle, qui réunit en fait cinq factions, dont... Alors, l'État islamique au Grand Sahara ne fait pas partie de ce...
C'est un hasard s'il s'appelle le G5 ou c'est finalement pour répondre précisément au G5-Sahel ?
C'est une blague des Africains hein, qui le surnomment le G5.
Non, mais elle est révélatrice, ça veut dire qu'on se construit soi-même à partir finalement de l'opposition qu'on a en face de nous.
Les mots que les Africains utilisent sont très révélateurs. Parfois, dans les villages, on vous dit que le terrorisme est passé et en fait, on veut mentionner les unités antiterroristes qui ont raflé des jeunes. Ouais, et donc, ouais. Les mots locaux sont extrêmement importants aussi. La façon dont le conflit est perçu localement, et il n'est pas du tout perçu en termes de terrorisme localement. C'est ça qui est important aussi. Il y a un décalage entre la façon dont le conflit est conçu à l'Élysée et la façon dont il est perçu localement. Ouais. Pas du tout dans le même terme.
Marc Sémot et puis Michel Goya.
Justement, sur cette impossibilité jusqu'ici de trouver une réaction très efficace militaire, et hier quand on écoutait le général Lecointre sur France Inter, ensuite sur RFI, quand on le posait une question sur les résultats, c'est là-dessus qu'il était un peu embarrassé. Alors parmi les solutions que vous proposez, Michel Goya, il y a cette idée de prendre les forces locales sous notre commandement, avec l'accord des autorités locales, qui seules permettraient vraiment d'avoir une action très coordonnée, un effet de masse. Alors qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous pensez que c'est possible?
Michel Goya.
Bon, alors d'abord, il faut revenir à un élément stratégique important. C'est un bon soldat, moi, face à un ennemi, je cherche son centre de gravité. Le centre de gravité, c'est ce qui fait sa force. En réalité, ce qui fait la force de ces groupes, ces djihadistes, c'est pas les quelques milliers de combattants, c'est pas leur chef. Non, ce qui fait la force de ces groupes djihadistes, c'est la faiblesse des États qu'ils ont en face d'eux, et particulièrement de l'État malien. C'est ça la force. Et donc, l'action militaire, elle joue sur, notamment l'opération Barkhane, sur les groupes djihadistes. Elle maintient la pression sur eux, mais elle n'agit pas sur le véritable centre de gravité, ce qui fait vraiment leur force, qui, encore une fois, cette incapacité de l'État malien à assurer sa mission d'État, assurer la sécurité des gens, à faire en sorte que lorsque les villages demandent l'aide de l'armée, celles-ci viennent, soient là, soient efficaces, que des gens rendent la justice, etc. etc. C'est ça qui fait le terreau, qui fait la force des djihadistes. Alors, maintenant, il faut véritablement s'attaquer à ça si on veut résoudre le problème. Au passage, on parle du Mali, Burkina Faso, il y a d'autres pays, la Mauritanie, par exemple, où... les États ont eu d'autres capacités, d'autres stratégies et ont plutôt évolué dans cette guerre contre les organisations djihadistes, plutôt dans le bon sens. Alors d'un point de vue militaire, effectivement, ce que fait la France actuellement, comme ça a été rappelé, en réalité, il y a énormément d'acteurs militaires. Il y a une force, il y a le Barkhane avec des éléments européens. Il y a l'opération des Nations Unies dont on parle assez peu quand même, plus de 12 000 combattants, 1 milliard d'euros de fonctionnement, de dépenses de fonctionnement chaque année, pour un résultat qui est, comme d'habitude, en réalité assez nul. Mais c'est quand même, il y a quand même là bien plus de soldats qu'il y a de combattants djihadistes dans tout le Sahel. Vous avez effectivement les armées locales, vous avez le G5 Sahel, enfin la structure qui essaie de regrouper tout ça. Donc vous avez toute une galaxie en réalité d'acteurs.
Et vous, ce que vous dites, c'est que la France devrait orchestrer tout ça?
Alors, si on veut maintenant, d'un point de vue militaire, si on veut être un peu plus efficace, alors on peut augmenter les moyens, on peut augmenter le nombre d'avions, on peut continuer à faire ce que l'on fait en plus grand, si vous voulez. Donc on va continuer à ce qu'on fait. En fait, on fait deux choses. On frappe. On tue des djihadistes, leurs chefs, les combattants, on les élimine autant qu'on faire se peut, et puis on essaie de conseiller, d'équiper, de soutenir des forces locales. Bon, mais on peut continuer à faire comme ça, on peut augmenter le nombre d'avions, on peut augmenter le nombre d'hélicoptères au combat, en réalité ça changera pas grand chose. Si d'un point de vue militaire on veut être un peu plus efficace, il faut être plus sur le terrain en fait. Et il faut occuper un petit peu le terrain, il faut occuper la zone.
Est-ce qu'il faut faire plus de coordination?
Alors le problème,
on sait bien qu'au sein du G5, il y a un problème. Et je vous passe la parole, hein, Marc-Antoine Perros de Monclos. Mais sur cette question, la coordination, je voudrais qu'on soit clair.
Si vous voulez, on
a
abordé le problème militaire. Le plan général, si vous voulez, stratégique, c'est de dire voilà, finalement, on reste. Moi, j'étais pas partisan du maintien de l'opération Serval. Je pense qu'il fallait se retirer à ce moment-là. Mais on a décidé de rester pour passer le relais à d'autres forces, la force des Nations Unies en premier temps, et puis les forces locales, en particulier les forces maliennes. Ensuite, en se disant, quand ils seront capables de prendre le combat à leur compte, on pourra partir. dire. Mais en réalité, c'était un leurre, parce que ce n'est pas un problème de formation technique, de compétence de l'armée malienne. C'est une armée, c'est tout un système. Il faut une solde, il faut que les gens soient payés, il faut que les gens soient bien commandés, etc. Si vous ne maîtrisez pas tous ces éléments, en réalité, vous ne maîtrisez rien. Si vous formez des soldats...
Mais donc, si je résume, Michel Goya, vous n'appelez pas forcément à ce que la France prenne un rôle de coordinateur dans cette affaire, pas forcément.
C'est un peu ce que nous essayons de faire déjà, mais ça a d'énormes limites.
Il faudrait faire plus.
En réalité, voilà, il y a des exemples où on a réussi dans ce type de conflit, on a réussi à s'en sortir au Tchad, par exemple, au début des années 70. C'est un exemple. Bon, mais on l'a réussi parce qu'on était sur le terrain et parce qu'on avait pris aussi sous notre commandement les forces locales, voilà, au moins provisoirement.
Alors, Marc-Étienne Perreuse de Monclos, j'ai vu que vous vouliez réagir, mais sur cette idée peut-être de Michel Goya, c'est-à-dire davantage insister sur la question de la coordination. Et puis la question qui se pose aussi derrière, c'est est-ce que les États africains sont prêts, effectivement, à laisser la France davantage coordonner ?
Voilà, ouais, je pense qu'un surinvestissement militaire de la France dans la région serait en fait contre-productif. Ça pose quatre principaux problèmes. Il y a un problème de durée, d'abord. Des troupes de libération, comme en janvier 2013, avec les drapeaux tricolores qui flottent à Tombouctou, ça ne dure qu'un temps. Donc aujourd'hui, les Français sont malheureusement plutôt perçus comme des troupes d'occupation. Il y a une montée du sentiment anti-français. Donc avoir des Français aux commandes de l'armée malienne ne me semble pas, de ce point de vue, être une bonne idée, parce qu'une guerre contre le terrorisme face à un ennemi invisible, vous ne le gagnez pas si vous n'avez pas le soutien de la population. Donc il y a quand même là déjà un premier problème. Le deuxième problème, on le voit bien, c'est de faire de la guerre par procuration avec des milices, hein, une espèce de supplétif de l'armée malienne qui, elle, fonctionne très très mal. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que ces milices ne rendent pas de compte à l'État malien et elles commettent elles-mêmes, elles règlent leurs comptes. Donc ces groupes se fragmentent, on est dans des conflits communautaires liés entre autres à des questions de pâturage, de transhumance du bétail, etc. Donc ça me paraît extrêmement dangereux. La troisième chose, c'est qu'il y a toujours ce risque de la prophétie autoréalisatrice. Alors il faut rappeler qu'aucun de ces groupes n'a jamais commis d'attentat en Europe ou en Amérique. Hein. Donc on n'est pas du tout dans la situation Irak-Syrie avec Daesh. Maintenant, peut-être qu'à force de leur taper dessus, et surtout si on a une présence militaire française plus visible, peut-être qu'on va agiter certains réseaux dans la diaspora malienne pour se venger des crimes commis par des supplétifs qui auraient été financés par l'armée française et équipés et formés par eux. Hein. Donc il y a ce risque de la prophétie autoréalisatrice. Et puis, il y a le quatrième risque, qui est pour moi ce que j'appelle le syndrome de Turquoise, où finalement l'armée se retrouve mêlée malgré elle à des massacres de civils, et là il y en a, et où effectivement du coup ça ternit l'image de la France, mais aussi à l'international. Mais là de toute façon notre image est déjà un petit peu écornée, excusez-moi. On est intervenu selon moi, hein, au Mali, pas du tout pour mettre la main sur du pétrole qui de toute façon est prospecté par les Algériens, et on n'en a pas trouvé en quantité commerciale. Mais
précisément le général Lecointe sur RFI disait qu'il était très important de faire passer l'idée que nous ne sommes pas allés sur place pour le pétrole.
Déminer cette rumeur, mais voilà, elle est là. Bon, on est intervenu pour dire qu'on était une puissance moyenne et on était capable de faire le job. On méritait notre siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies parce qu'on pouvait endiguer la menace djihadiste qui était censée, déborder sur l'Europe, même si pour l'instant ça n'a pas été le cas. Et puis, cette menace migratoire, même si ce n'est pas écrit dans les textes. Hein. Or, aujourd'hui, on voit 7 ans après que ce n'est pas le cas. Donc, même je pense que l'image de la France dans le monde, de ce point de vue, est ternie par ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, où on voit qu'en fait, ce n'est pas faisable. Ce sur quoi la France de Hollande s'était engagée, puis de son successeur, en réalité, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc là, il y a des questions qui se jouent même sur le rôle que l'ancienne puissance coloniale peut jouer en Afrique, avec ce péché d'orgueil infernal qui nous poursuit depuis la période des indépendances, où on imagine qu'on peut régler les problèmes des autres en Afrique. Moi, je crois que cette intervention-là pose ce souci. Qu'il y ait eu une opération Serval dans le délai réglementaire des 6 mois avant que le Parlement se saisisse de la question pour approuver la prolongation d'une opération militaire, on pouvait éventuellement l'envisager, même si déjà, je pense qu'il y avait des soucis. Mais là, ça a démarré en janvier 2013, donc en janvier 2020, ça fera 7 ans. 7 ans de réflexion.
Mais justement, on va revenir sur ce moment-là où la France est intervenue. On parle de cette opération meurtrière au Sahel, de l'émotion à la remise en question. C'est le titre de notre émission ce matin. Michel Goya, Marc-Antoine Perreuse de Monclos sont nos invités. Vous évoquiez tout à l'heure votre ouvrage « L'Afrique nouvelle, frontière du djihad » qui est paru à La Découverte. Mais il faut aussi mentionner « Une guerre perdue, la France au Sahel ». Ça sera dans quelques jours chez La Thèse. Michel Goya, vous concernant, je ne l'ai pas encore évoqué, « S'adapter pour vaincre, comment les armées évoluent ». C'était chez Perrin. On va faire une petite pause en dessin. On est en une association en partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de caricaturistes du monde entier. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux.
Assis.
Un dessin présenté par Hélène Lefrançois. Bonjour Hélène.
Bonjour Florian.
Et le dessin dont vous nous parlez aujourd'hui nous fait justement remonter un peu dans le temps, 2013 justement, on en parlait.
Oui, et en janvier dernier, le Rallye Dakar fêtait les 40 ans de l'arrivée des pilotes de la toute première édition. Mais il est loin, le temps où cette course automobile se tenait effectivement en Afrique. La compétition s'est durablement installée en Amérique du Sud après l'annulation de l'édition 2008 en raison de la menace terroriste. Et il est loin le temps où l'action militaire française au Mali et plus largement au Sahel était applaudie. Pour illustrer ce changement, nous avons ressorti un dessin croqué par le dessinateur Chapat et publié dans le journal suisse Le Temps le 15 janvier 2013 au moment du lancement de l'opération Serval. Sur ce dessin, ce ne sont pas des véhicules de sport automobile qui se précipitent vers la ligne d'arrivée, mais des blindés, un camion, un hélicoptère et des avions de chasse. Le blindé en tête de course agite une banderole sur laquelle on peut lire Paris, Gao, Dakar, édition 2013. Cette étape, Gao, c'est la ville où l'armée française enregistre sa première victoire militaire sur le sol malien. En 2012, cette ville tombe sous le contrôle du Mouvement National pour la Libération de l'Azawad, le MNLA, avant que ce groupe armé, très impliqué dans la guerre au Mali, ne soit remplacé par des mouvements islamistes radicaux, comme Ansar Dine, comme vous l'avez dit. En janvier 2013, les soldats de l'opération Serval, les troupes maliennes, parviennent à reprendre la ville. Mais l'étape à Gao ne se résume pas à un passage express dans une course contre la montre. Cette intervention marque le début de l'interminable combat de l'armée française contre les djihadistes de la région et le début de son enlisement. 41 Français ont perdu la vie au cours de ce rallye raid militaire dont la légitimité est aujourd'hui remise en question.
Merci beaucoup Hélène Lefrançois pour ce dessin qu'on va mettre évidemment sur les réseaux sociaux, sur le fil Twitter notamment de Culture Monde. Je voudrais vous entendre sur ce dessin. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, elle est intéressante la métaphore de la course automobile parce que c'est vrai que quand on revient à 2013, le discours qu'on nous avait donné, qu'on nous avait livré, le narratif, c'était justement celui d'une forme de course. C'est-à-dire qu'on nous disait que les pick-up étaient en train de fondre sur Bamako, et que si on n'y allait pas pour intercepter justement ces fameux pick-up, Bamako allait tomber. C'était vraiment de l'ordre de la course. On était dans ce discours-là.
C'est le récit dominant, et ni vous ni moi n'allons refaire l'histoire. Hein, donc on ne peut pas savoir ce qui se serait réellement passé si l'armée française n'était pas intervenue. Mais justement, on met ça souvent comme en évidence comme un succès de l'armée française. En réalité, il y a pas mal d'éléments qui montrent que ce n'est pas du tout évident que les djihadistes se seraient emparés de Bamako, où on les détestait très franchement. Donc on n'était pas du tout dans la configuration de Mossoul ou avec 300 pick-up Daesh s'est emparé de la ville, avec déjà un soutien fort dans la population de Mossoul, avec des baassistes, avec des gens qui étaient anti-américains. Il y avait une prédisposition sur Mossoul qui ne fonctionnait pas du tout sur Bamako, où on détestait les gens du Nord. En plus de ça, on ne sait pas, c'est sous le nuage de fumée qu'on pouvait voir à travers les images satellites, il y avait 50 véhicules ou 300. Bon, il y a beaucoup d'interrogations qui laisse à penser que cette histoire du fait, parce que ça nous a été vendu comme un arc de crise, vous savez ce qu'on appelle le Sahelistan, donc Bamako allait tomber, la théorie des dominos de la guerre froide, vous voyez, Bamako tombe, ensuite c'est Ouagadougou, ensuite c'est Niamey, puis ça y est, on a une espèce de Sahelistan, un état islamique énorme, pas très loin de la Méditerranée, c'était absolument effrayant, hein, cette perspective. Sauf que voilà, les éléments sur place laissent à penser que c'était pas du tout évident que quelques Touaregs ou Peul même viennent et s'en part et contrôle Bamako.
Sauf qu'aujourd'hui, c'est exactement ce à quoi on assiste.
Non,
c'est-à-dire que,
pas sur Bamako.
Par exemple, vous parlez du Burkina. Bamako. À l'époque, au Burkina, il n'y avait absolument pas. Aujourd'hui, il y en a.
Ils ne sont pas sur Ouaga, ils ne sont pas sur Bamako. Ouais. Et puis, si vous voulez, ces groupes, on parle de terrorisme.
Non, mais en tout cas, il y a une extension.
Ce sont des groupes insurrectionnels. Donc, ils ont une base sociale, ils tiennent du territoire. Mais tenir du territoire, ça ne veut pas dire savoir le gérer et le gouverner. Donc, aucun de ces groupes, pour l'instant, n'a fait la preuve qu'il était capable de gouverner. Contrairement aux Chebabs de Somalie, par exemple, dans le sud de la Somalie, qui eux, effectivement, ont réussi à se transformer un peu comme le Hamas, en mouvement nationaliste islamiste, de rejet contre la puissance occupante occidentale, ou en l'occurrence en Somalie éthiopienne. On n'en est pas encore là, au Mali. Donc il y a une vraie question qui se pose sur la capacité de la population malienne à se saisir de la question de l'État. Quel est leur choix à eux ?
Michel Goya, cette question de l'État, c'est vrai qu'elle est décisive. Je ne sais plus si c'est vous ou si c'est Marc-Antoine Pérouse de Monclos qui disait tout à l'heure, finalement, le vrai problème à l'époque, quand on y est allé, c'était moins précisément les groupes qui fondaient sur Bamako, mais que le vrai problème, c'était la faillite de l'État. Si on regarde précisément 6 ou 7 ans après, le bilan de l'action française en matière de reconstruction de l'État malien.
Alors là, on bute sur un autre problème majeur, une limite forte, qui est quand même celle de l'ingérence. En quoi est-ce le rôle de la France de transformer un État souverain étranger, quoi? Enfin, on va dire. Le problème de la France, j'ai fait quelques opérations en Afrique, hein, c'est soit on intervient et enfin soit on n'intervient pas lorsqu'il y a un gros problème et on va être accusé par certains de non-ingérence, enfin de non-intervention, de non-assistance à pays en danger, soit on intervient et puis très rapidement on va être aussi accusé d'ingérence, de néocolonialisme, surtout si on reste, puis très rapidement on va devenir le bouc émissaire et la raison pour laquelle les problèmes persistent. Donc l'État malien, c'est le cœur du problème, comment transformer une gouvernance, comment réduire la corruption, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile et c'est quelque chose qui doit venir surtout de l'intérieur.
Et en tout cas c'est pas notre rôle, vous dites.
On peut faire la politique. Je pense que par exemple on aurait pu utiliser notre action militaire pour faire pression, c'est la sorte de diplomatie, hein. Faire pression sur Bamako pour que par exemple il trouve une solution avec le problème Touareg, par exemple.
C'est un peu
la présence française, c'est aussi un substitut, ça permet de justifier une inaction aussi. Hein. Les Français font le boulot militaire. Voilà, et c'est en cela peut-être qu'effectivement, en retrait, obligerait tout le monde à...
Voilà, c'est la meilleure pression. Ouais. Là, j'étais il y a un mois à Bamako et j'ai vu des gens... Ouais, tout à fait. Et j'ai vu des gens qui étaient favorables à Serval et à Barkhane, mais qui ont changé d'avis, qui disent aujourd'hui, l'État malien a besoin d'un électrochoc. Et c'est l'annonce du retrait de l'armée française qui créerait cet électrochoc. Sinon, on maintient un régime assez corrompu, sous perfusion financière, militaire, humanitaire et tout ce que vous voudrez. Et dans 7 ans, on est encore là. Et dans 21 ans, on va
célébrer... Donc quand Jean-Yves Le Drian dit cette semaine, appelle justement le Mali à plus d'engagement sur le plan politique, plus d'action politique, il n'y a rien à en attendre. En fait,
non,
en réalité,
rien,
tant qu'on reste,
rien du tout.
Il n'y aura pas d'électrochoc.
Rien. Parce qu'on est la sauvegarde de ces régimes. Regardez aussi le Tchad. Je veux dire, pour Idriss Déby, qui est arrivé au pouvoir par la force en 1990, la lutte contre le terrorisme, c'est une rente politique formidable. Ça lui permet de se réinsérer, de se réhabiliter dans la communauté internationale comme un allié indispensable. On détourne l'opération Barkhane de son mandat pour aller taper sur des colonnes de rebelles qui ne sont pas du tout djihadistes, qui descendaient de Libye pour essayer de renverser le régime. Bon, pour ces gouvernements-là, la présence militaire française, c'est un atout politique énorme et diplomatique aussi, parce que ça les réinsère dans le jeu international.
Mais est-ce que les choses ne sont pas un petit peu en train de changer, Marc-Antoine Pérouse de Monclos? Pendant très longtemps, justement, ces États refusaient finalement d'instaurer un dialogue avec les groupes armés divers et variés. On a l'impression, mais vous allez nous éclairer, que ces derniers temps, c'est un tout petit peu en train de changer. Par exemple, cette semaine, le président nigérien Issoufou, il a rencontré des chefs Touareg de la région de Kidal. Encore il y a peu de temps, il disait qu'ils étaient une menace pour la stabilité du Sahel, que de toute façon, en plus, pour le coup, ils faisaient des alliances, ce qui est vrai, un peu opportunistes avec les groupes djihadistes, et que donc, il ne fallait pas discuter avec eux, sauf que là, il les a rencontrés précisément. Il a notamment rencontré plusieurs cadres du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. Est-ce que les choses ne sont pas en train de changer? Est-ce que précisément les conditions ne sont pas réunies de la mise en place de ce dialogue?
En fait, il y a toujours eu de la négo avec les djihadistes, à plusieurs niveaux, et notamment et d'abord au niveau local. Hein, parce que de toute façon, les populations locales s'arrangent avec les groupes djihadistes pour continuer à vivre, à cultiver, à faire passer les troupeaux, etc. Et vous avez de la négo toujours sur les otages.
Le dialogue n'a jamais été rompu?
Jamais. Il y a toujours eu un dialogue. Toujours. Que ce soit au Niger ou ailleurs. Simplement, ça monte en visibilité, parce qu'évidemment, la vraie question, d'ailleurs j'ai un papier, je fais ma pub, qui sort dans Politique étrangère à ce propos, faut-il négocier avec les djihadistes au Sahel? La vraie question, c'est un, quel est l'interlocuteur, parce que c'est des groupes extrêmement fragmentés, et deuxièmement, quel est le contenu de la négociation? Est-ce que c'est d'islamiser l'État? Non, je le pense pas. Par contre, il peut y avoir effectivement un vrai changement de logiciel, parce qu'aujourd'hui, l'analyse que l'on fait de ces crises, on parle que des exactions commises par les groupes djihadistes. pas de celles commises par les forces antiterroristes qui sont malheureusement pour certaines appuyées et équipées par la France. Enfin, on a des témoignages, on a des rapports des organisations de défense des droits de l'homme. Donc effectivement, si vous allez indemniser uniquement les victimes du terrorisme, entre guillemets, et pas les victimes des forces de sécurité, ça pose un problème dans la réconciliation et dans la négo. Donc déjà, il faut peut-être changer le logiciel et faire un peu ce que fait très courageusement la Colombie avec les FARC, où finalement on met en place des fonds d'indemnisation des victimes civiles, à la fois des forces gouvernementales et des forces insurrectionnelles. Mais là, on n'en est pas du tout là. Donc déjà, si on avançait là-dessus, on aurait un élément de négociation. Mais pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Et là, malheureusement, je suis désolé, j'ai encore tapé un peu sur les médias, mais... pas mon produit, parce qu'on est en direct,
allez-y,
je
n'ai
pas
pouvoir
m'arrêter. Mais je trouve qu'il y a quand même une vision extrêmement tronquée. Enfin, nous, on a montré avec une base de données qui s'appelle Nigeria Watch que sur le cas de Boko Haram autour du lac Tchad, les forces de sécurité nigérianes et leurs supplétifs miliciens tuent plus que les groupes antiterroristes, les groupes terroristes. Donc ça pose de vraies questions sur la forme de stabilisation que l'on imagine à travers ces guerres contre un terrorisme dit global.
On se demandait, Michel Goya, ce que la France peut faire. C'est vrai que quand la France met la pression sur les pays de la région, c'est essentiellement sur le volet sécuritaire. On dit qu'il faut faire plus d'efforts sur le volet sécuritaire. Est-ce que là, il n'y a pas une opportunité? Est-ce que la France ne devrait pas faire pression sur les États pour les pousser à dialoguer? Pour l'instant, ça n'a pas été véritablement une option. En tout cas, on n'a pas utilisé le levier, me semble-t-il, du côté de la diplomatie française.
Bah, comment dire? D'une manière générale, les guerres se terminent par des négociations. Il est extrêmement rare qu'on assiste à des destructions d'un ennemi. Je citais l'exemple du Tchad au début des années 70, où nous sommes intervenus, 69 à 72. Nous sommes partis à un moment donné parce que nous avons considéré que ça suffisait. Le problème de des interventions, c'est globalement, c'est de savoir où s'arrête ce qui suffit. C'est un précepte bouddhiste, mais qui est parce que il n'y aura pas de capitulation, il n'y aura pas de destruction, de reddition en rase campagne. Il y aura un problème persistant, et donc il faut gérer ce problème. À l'époque au Tchad, on avait fait pression effectivement sur l'État tchadien, on avait fait pression sur l'ennemi. Bien sûr, ça c'est la fonction première des forces armées, sur leur force. On avait fait pression sur cet État pour qu'il réforme un peu son administration, qui était un peu au cœur du problème, ses forces de sécurité, etc. etc. Et lorsqu'on avait obtenu un résultat qui me paraissait à peu près satisfaisant, l'ennemi n'était pas détruit, l'État avait commencé à négocier, à faire un certain nombre de concessions politiques avec un certain nombre d'entre eux, mais voilà, on avait abouti à une situation qui était à peu près stable et sécuritaire. Et la France était retiré, quitte à revenir un peu plus tard. Voilà. Et donc, nous, il faut effectivement jouer de notre présence pour agir sur la
ligne. Ce qu'on ne fait pas.
On le fait.
Vous confirmez, Marc-Antoine.
L'Élysée avait toujours eu une position extrêmement dure et hostile aux négociations. Toujours. C'est officiel. On ne négocie pas avec les terroristes. C'est la ligne officielle. On négocie pour libérer les otages, entre nous soit dit. Mais ça, c'est pas avoué. Mais la position officielle, c'est on ne négociera pas avec les... Là-dessus, ça n'a pas bougé.
La Mauritanie négocie.
Bien sûr, c'est pour ça que la Mauritanie est relativement épargnée. Elle a pactisé avec les groupes djihadistes. Enfin, elle est accusée d'avoir pactisé.
Accusée, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, effectivement, mis en place des forces de sécurité qui sont efficaces, adaptées. Il y a une vraie transformation.
C'est quand même un déni terrible des leçons qu'on devrait normalement tirer, par exemple, de l'Afghanistan.
Mais oui, bien sûr.
Donald Trump, par exemple, vient d'aller en Afghanistan. Il a annoncé la réouverture. Alors, on ne sait pas ce que ça donnera, mais il a annoncé la réouverture des dialogues avec les talibans.
Bien sûr.
Il faudrait peut-être qu'on comprenne qu'il faut dialoguer.
C'est avec nos ennemis que l'on fait la paix.
À la belle Kina, Kagan de Taka, Anire Mabafune. Amane kuta amane tonyo anene mabakere.
Merci beaucoup à nos invités, Michel Goya, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappellerai que vous êtes l'auteur cette année de cet ouvrage S'adapter pour vaincre, comment les armées évoluent, c'était chez Perrin. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, merci également d'avoir été avec nous ce matin. L'Afrique, nouvelle frontière du djihad, point d'interrogation, c'était à la découverte. Et apparaître très bientôt, au mois de janvier, c'est ça?
Le 13 janvier.
Le 13 janvier, donc c'est très bientôt, chez Lattès, une guerre perdue, la France au Sahel. Merci infiniment, et merci également à Marc Sémaud d'être avec nous chaque vendredi. Thank you.
jawa buya adama mubar fitina mutama juna ala baraka jinga ure da salla mubar fitina mutama juna